Et ces micros, Jean-Pierre?
Avec les épouvantables malheurs du monde, qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs reîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons. Fidèle auditrice, fidèle auditeur, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur CFM et vous écoutez Sexygénaires et compagnie, une émission dialectisée par Jean-Pierre avec la collaboration micro et manette de Thomas, sans oublier les chroniqueurs.
Chroniqueurs ?
Non, enfin peut-être. Les chroniqueurs donc, Philippe Roata, alias Philippe Le Nîmois, poète et écrivain, dans son carnet sur l'Obs, un régal hebdomadaire. Et Claude Cherblanc, le célèbre blogueur de Mediapart, alias Hercule Poivreau. Un courriel qui nous provient de Neuilly.
Bonjour Jean-Pierre. Bravo à toute l'équipe de Sexygénaires. D'abord que je suis en retraite, après Hollande, il m'a volé ma place. J'ai du temps pour écouter la radio. Même si je fais des petites conférences à droite, à gauche, surtout à droite, et que j'ai repris la boîte que j'ai ruinée. Ah les cons. Je veux passer un message. Pourquoi ces pauvres cons qui ont tué Charlie et Juif, ils ont pas fait ça quand j'étais président, hein? Non mais c'est vrai quoi. J'aurais été réélu, haut la main, et le flambi il serait pendu à un croc de boucher, et puis c'est moi que j'aurais été en tête du cortège avec maîtresse Angela. Avec Carla, ça aurait été du sérieux la manif avec les pulls à sueur. Que j'aurais montré que j'étais un homme du peuple. Nicolas S. Neuilly.
Michel Audiard disait « Les cons, ça ose tout ». C'est même à ça qu'on les reconnaît. Eh bien, les politiciens, c'est la même chose. Après le drame du 7 janvier et l'élan populaire et républicain du 11 janvier,
« Récupérons », disent-ils.
C'est à cause d'un dysfonctionnement de nos services de renseignement, maintes fois remaniés, que les forcenés ont pu commettre leur massacre, alors pan sur les doigts du gouvernement.
Que nini !
Grâce à une bonne communication, une fois n'est pas coutume, Hollande, en endossant le costume et l'allure d'un vrai président, bondit dans les sondages. Valls nous pète un beau discours et à son tour grimpe dans les sondages. De même pour le ministre de l'Intérieur Cazeneuve, pourtant en charge des renseignements.
Morale, pas de morale.
Quelques gestes, quelques paroles suffisent. Le premier ministre grec, Antonis Samaras, en pleine campagne électorale, a récupéré notre épreuve. Je le cite. Aujourd'hui à Paris, un massacre s'est produit, avec au moins 12 morts. Et ici, certains encouragent encore davantage l'immigration illégale et promettent la naturalisation. Ah, pas de bol, Syriza a remporté les élections. Un espoir pour l'Europe ? À suivre. Bien faux cul les socialistes qui ne voulaient pas recevoir les représentants de Syriza à Paris. Bien faux cul, parce que maintenant ils les félicitent chaleureusement.
Ah bah ouais, ils ont gagné les élections.
Le milliardaire américain Donald Trump a lui aussi profité de l'occasion pour vanter le port d'armes. Si les gens si violemment abattus à Paris avaient eu des armes, ils auraient au moins eu une possibilité de se défendre. N'est-il pas intéressant que la tragédie de Paris se soit produite dans un des pays où le contrôle des armes est le plus strict du monde ? Souvenez-vous, quand les armes sont hors la loi, les hors la loi sont armés.
Connard.
Oui, connard. Mais quand serons-nous surpris par l'impudeur des politiques ? Rien ne peut plus nous surprendre de leur part, comme ces premiers rangs de la manifestation qui mêlent people et chefs d'État liberticides, prenant toutes les caméras. Ah, deux gags cependant, Sarkozy. Jouant les furets, il est passé par ici, il repassera par là, écrasant sans vergogne des pieds pour arriver au premier rang. Et puis ce pigeon salvateur, conchiant l'épaule de François Hollande.
Un conseil François, prends toujours un parapluie avec toi.
Marine Le Pen. Qui n'était pas du voyage, récupère et demande le rétablissement de la peine de mort et la suppression du droit du sol. Récupération, vous dis-je. Le borgne paternel continue à débloquer sérieusement. « Je suis Charlie Martel, dit-il. Ah, pour les cantonales, le péril islamique, c'est bon pour le FN. Synonyme de récupération, ramené à soi. Les radios, les télévisions privées en ont fait, sans retenue, des tonnes. Même Patrick Cohen, du service public, est allé d'émission en émission en se frottant le nombril. »
Comme je suis courageux, comme je suis brave.
Il a été vite recadré par Edwy Plenel qui l'a mis KO sur le petit écran. récupération et sa cousine germaine, manipulation, ou comment exploiter un fait divers monstrueux. Une citation de Napoléon Bonaparte. La bonne politique est l'art de faire croire au peuple qu'ils sont libres. T'es-tu prêt, mon gars ?
Moi ?
Alors à toi, Thomas.
Lâche-moi les baskets, Jean-Pierre. Laisse-moi être dans le thème en récupérant comme possible. La semaine prochaine, j'aurai quitté la gouttière, mais pour l'heure, il pleut dans ma tête.
Bon, ce n'est pas une majorette, la Paulette. La blague de Paulette. Un inconnu a laissé en pissant sur la neige, répandu dans le parc de l'Élysée, ce message. Le président est nul. Furieux de voir cela, le président de la République ordonne qu'il soit procédé à des analyses d'urine et à des analyses graphologiques de toutes les personnes gravitant autour de lui. Quelques jours plus tard, le ministre de l'Intérieur lui annonce.
J'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise.
Ah, la bonne d'abord.
L'urine est celle de votre premier ministre.
Et la mauvaise ?
L'analyse graphologique et formelle, l'écriture est celle de votre fille.
Elle est bonne. Attends, elle est bonne. C'est-à-dire qu'elle lui tenait la quiquette pour écrire.
Ah ouais, compris,
bah, c'est
ouais.
Bon. Cassons une bouteille de Merlot pour Hercule Poivreau. À toi, Hercule.
Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille ?
Salut, c'est Hercule. Aujourd'hui, de la récupération comme un art. Tout le monde a en tête le clochard qui fouille les poubelles au petit matin, espérant y trouver quelques reliefs et autres fonds de bouteilles. Chacun sait que nos poubelles regorgent de trésors insoupçonnables et insoupçonnés. Nombre de politiciens sont à l'image de notre SDF. Au petit matin, après avoir enfilé leur uniforme gris anthracite ou le tailleur Chanel et les loups-boutins réglementaires, ils fouillent dans les colonnes de faits divers, sordides de préférence, ou bien se branchent sur les chaînes d'infos en continu, à la recherche de l'eau s'arranger, la pépite qui leur permettra de se hausser du col à la messe du 20h. Une victime sympathique, comme un petit vieux agressé à domicile, par des jeunes c'est encore mieux, ou les coupables comme le RSiste qui a escroqué la sécu de 500 malheureux euros, ou bien encore le chômeur de base soupçonné de ne pas chercher avec suffisamment de zèle un emploi précaire et mal payé, sont les figures idéales pour exercer leur talent récupérateur. Certes, les récents assassinats de Charlie et du supermarché Cacher n'ont pas suscité les réactions habituelles des experts en récupération politicienne, hormis les deux prix Nobel de cette discipline, la blonde nasillonne de Saint-Cloud et l'auguste agité de Neuilly. Mais soyons patients. Les roquets de la récup, les Ciotti, Vauquier, Dati et autres hortefeux, ne devraient pas tarder à aboyer dans les étranges lucarnes après une période de décence raisonnable. Sachant leur faire confiance, ils vont trouver de quoi faire prospérer leur fonds de commerce puant. Ils sont tapis, attendant les premiers signes de la fin de la fragile unité nationale pour déverser leur bile. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont furieux que ces drames ne soient pas arrivés alors qu'ils tenaient les rênes de l'État. Quoique. Mais on les sent piaffant d'impatience, furieux, jaloux d'un pouvoir socialiste qui a su gérer, une fois n'est pas coutume, cette crise exceptionnelle avec une maîtrise tout en retenue, en glissant pour un temps sous le tapis, sa conversion au libéralisme et sa soumission au dieu pognon, tirant avec maestria les marrons du feu du fétiche de la droite, le hochet sécuritaire, chaudron nauséabond de tout ce qui excite, ce qu'il y a de plus noir en chacun d'entre nous. La récupération politicienne est un mal profond. Ne vous contentez pas de vous méfier des crapules qui font appel à nos tripes plutôt qu'à nos neurones. Fuyez-les ! Allez, bonjour chez vous !
Merci Hercule. Tout de suite une chanson choisie par Hercule Poivreau.
Sans t'avouer que je me manque, donne-moi de mes nouvelles. Dis-moi dans quel port se planque la barque de ma cervelle. Me crois-je encore guitariste? Comment vis-je, comment vais-je? Ai-je toujours le front triste d'un professeur de solfège? As-tu rendu au voisin la page du Télérama dont il avait tant besoin à cause du Dalai Lama? Vis-tu toujours avec moi? Oh my, I not so well. De ma santé, je m'en fous. C'est surtout de mes nouvelles, près de toi, dont je suis fou. Ma chienne Lou est-elle morte? Ai-je arrêté de fumer? Combien de roses y avortent avant d'avoir parfumé? Est-ce que mon ombre chinoise à l'angle du cinéma a enfin payé l'ardoise du restaurateur chinois? Vis-tu toujours avec moi? Donne-moi de mes nouvelles et ma cinglette à carreaux. Fait-elle toujours les merveilles au championnat de tarot? Connaît-on encore le Brest? Fait-il encore des chansons? Les mots vont, les écrits restent souvent sous les paillassons. C'est quelle main, de quelle semaine? C'est quelle saison, de quel mois? Longes-tu toujours la Seine aux bras de mon frère siamois? Vis-tu toujours avec moi? File-moi de mes nouvelles, file-moi le boléro du téléphone à Ravel et de mon dernier bistrot. Comment vais-je, comment boite mes pauvres pieds d'haricot? Et suis-je encore mis en boîte avec mon drapeau coco? On s'est promis tant de plages au bord des panoramas. Es-tu encore du voyage avant mon prochain coma? Viens-tu toujours avec moi? Viens-tu toujours avec moi?
Sans transition, je l'ai lu dans les journaux, vu à la télévision ou sur le net, entendu à la radio. Donc c'est vrai, non ? ?80% des Français veulent le rétablissement du service national. Moi, c'est bête. La France n'en a pas les moyens. En vrac, un néologisme, nomophobie, ou la peur panique de se retrouver sans téléphone portable.
Au secours !
Réchauffement climatique, arsenal nucléaire. Des scientifiques estiment que nous nous rapprochons de l'apocalypse.
Ah ! Ah !
Incendie de la maison de Jean-Marie Le Pen. Il n'est que légèrement blessé.
Le pauvre !
À Tokyo, un bar propose de se glisser dans un lit tout habillé. Et pour 22 euros, vous aurez droit à un câlin de 20 minutes avec une inconnue. L'époque est folle.
Câlin, Jean-Pierre !
Oh non, non, non ! Il est à la Badoie depuis son retour du Tarn, Philippe Lenimois. À toi, Philippe.
Chers amis cordaises, bonjour. Dans la dernière période, vous l'avez constaté, sans doute, on a beaucoup disserté sur les religions. Moi qui ai été baptisé, puis communié, puis confirmé en la basilique royale de Saint-Denis, s'il vous plaît, je suis devenu, avec le temps, totalement athée, suivant le principe énoncé par Cavanna, je pense, donc je ne crois pas. Je partage en outre l'avis d'Aurélie Filippetti, pour laquelle on parle en ce moment trop aux curés, rabbins et autres imams. Alors, l'exception confirmant la règle, l'énoncé du mot « récupération », qui constitue le sésame de l'émission d'aujourd'hui, me ramène immédiatement à la communauté Emmaüs, donc à l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, à mes yeux, fut le Robin des Bois du clergé français. Il était prêtre catholique de l'ordre des frères mineurs capucins. Il fut, je l'ai déjà dit, un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1949, l'abbé Pierre, député MRP de Meurthe-et-Moselle, achète une maison à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. Cette maison étant trop grande, selon lui, il crée dans son habitation une auberge de jeunesse internationale qu'il appelle Emmaüs, en référence à l'épisode biblique d'Emmaüs. Il est accompagné de sa secrétaire, Lucie Coutaz, qu'il a rencontrée dans la Résistance et qui est considérée comme la cofondatrice du mouvement Emmaüs. En novembre 1949, j'avais un mois quand l'abbé Pierre rencontre Georges Leguet, désespéré suicidaire. L'abbé Pierre tente de lui redonner la volonté de vivre. Je ne peux pas t'aider. Je n'ai rien à te donner, mais toi, tu peux m'aider à aider les autres. Georges accepte de suivre l'abbé Pierre et de se consacrer à cette tâche. Il devient alors le premier compagnon d'Emmaüs. Cette rencontre constitue l'acte fondateur du mouvement Emmaüs, qui s'est voulu totalement neutre sur le plan politique, sur le plan spirituel et religieux, et est ouvert à toutes les nationalités, les origines ethniques, sans juger les convictions de ceux à qui il porte assistance sans distinction. Le mouvement Emmaüs est aujourd'hui un ensemble d'associations et groupements de solidarité présents dans 36 pays. Ils sont sans attache religieuse et ont pour objet uniquement la lutte contre la pauvreté et l'exclusion par des moyens divers et adaptés au contexte des pays où ils se trouvent. La majorité d'entre eux ont une activité économique très souvent basée sur la récupération et le réemploi. La récupération et le réemploi, c'est la base de la dignité retrouvée grâce à l'abbé Pierre pour des centaines de compagnons. Tout a été dit et écrit sur le grand barbu capucin en soutane, insurgé de la bonté, défenseur des pauvres et des sans-logis, en grosse pèlerine élimée avec une canne, un béret et des godillots que lui a un jour offert un sapeur-pompier et qu'il n'a plus quitté. Héros légendaire, que l'on peut aussi qualifier de juste, il a sauvé des enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'abbé Pierre est mort il y a quasiment 8 ans, jour pour jour, le 22 janvier à Paris. Il avait 94 ans. Il laissera le souvenir d'un infatigable combattant qui a également défendu le mariage des prêtres, l'ordination des femmes ou l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Il affirmait « J'ai passé ma vie à prier Dieu pour mourir jeune » et ajoutait « Vous voyez, c'est raté ». L'abbé Pierre faisait également régulièrement allusion à sa mort en évoquant son départ en grandes vacances. Respect, chapeau l'abbé et bonnes vacances. Et en hommage à l'abbé Pierre, Jean-Pierre, Jacques Brel, sa chanson Saint-Pierre. Chers amis Cordez, bonne semaine.
Merci Philippe. Pour clore l'émission, une citation de Volinsky. Nous voulons du concret. Les idées, on a vu où ça mène. Eh bien, bonsoir l'auditeur et bis à ta femme. Dernière chanson choisie par Philippe Lenimois.
Il y a longtemps de cela, au fond du ciel, le bon Saint-Pierre, comme un collégien se troubla pour une étoile au cœur de pierre. Sitôt conquise, elle s'envole en embrasant de son regard le cœur, la barbe et l'auréole du bon Saint-Pierre au désespoir qui criait et pleurait dans les rues du paradis, qui criait et pleurait tout en se moquant de lui. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à moi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle m'aimera. Saint-Pierre alors partit chercher à cheval sur un beau nuage, vainement dans la voie lactée, sa jeune étoile au cœur volage. Au paradis lorsqu'il revint, devant la porte il est resté, n'osant montrer tout son chagrin à ses copains auréolés qui criaient et pleuraient dans les rues du paradis, qui criaient et pleuraient tout en se moquant de lui. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à toi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle t'aimera. Mais le bon Dieu lui vint en aide, car les barbus sont syndiqués. Il changea l'étoile en planète et fit de Saint-Pierre un portier. Et de ses anges déplumés, par les amours du bon Saint-Pierre, afin de tout récupérer, il fit les démons de l'enfer, ceux qui crient, ceux qui pleurent à l'heure où naissent les nuits, ceux qui crient, ceux qui pleurent dans un coin de votre esprit. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à moi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle m'aimera.